Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Une comète nommée Janis Joplin, 1943-1970. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celle qui est née au Texas et qui ne jurait que par le blues des chanteuses noires, de celle qui a quitté Austin pour San Francisco, celle qui a chanté avec autant d'énergie qu'elle en a mis à se droguer et à boire, celle qui était une voix et une femme puissante, celle aussi qui voulait que Dieu lui offre une Mercedes-Benz. Au départ, Janis Joplin, c'est une fillette à taches de rousseur avec des nattes. Et puis on la voit avec ce drôle de petit chapeau carré que portent les diplômés américains. Elle sourit et on voit ses dents. Plus tard, elle porte les cheveux bien lissés, en parfaite girl next door à robe plissée. Mais ensuite, c'est une autre histoire. Les cheveux sont longs et libres, les plumes, les colifichets et les foulards du Flower Power côtoient la panoplie laine de mouton, lunettes psychédéliques et pantalons pas d'éléphant. Souvent, elle a la cigarette au bec ou la bouteille à la main et elle rit. Ses yeux se plissent et on croit presque l'entendre. Ses excès, elle les a payés cher. Janis Joplin a été enterrée vivante dans le blues et on peut la revoir dans le documentaire de Amy Berg qui sort la semaine prochaine. Et on peut surtout faire connaissance avec cette trajectoire invraisemblable tout de suite dans ce documentaire de Michel Pomared réalisé par Christine Digère, une comète nommée Janis Joplin.
S130 is not on. Not that I'm play that great, but still and all, I ought to be able to hear it, you know what I mean?
Are you hearing it now?
No. Now.
Une vie, une œuvre.
It's too loud. I can't play that good.
Une comète nommée Janis Joplin.
I hope so.
But I always sound like this, man. I hear myself, I'll take myself.
Michel Pomared, Christine Digère.
Je nais dans le con désert de Port-Arthur, dans le con désert du Texas. Je nais la joue éraflée par la paroi de ma mère rugueuse, à croire qu'elle était tapissée de papier de verre.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.
Je nais dans une ville de merde, peuplée de patriotes et de conservateurs, et puis d'une flopée de grands noirs à lunettes noires.
Naissance de Janis Joplin dans la pièce Pearl de Fabrice Melchior.
Je nais le 19 janvier 1943, je suis Capricorne, ascendant Delta
Plane. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, hun, if it ain't free. And feeling good was easy, love. Bobby sang a blues.
Jean-Yves Roseau, vous avez écrit une biographie de Janis Joplin. 19 janvier 1943, le décor, les personnages.
Le décor, c'est Port-Arthur, au Texas, hein. Une petite ville portuaire, pas du tout gaie. C'est une ville où il y a du pétrole, c'est une ville franchement triste. Hein. Et Janis, elle est la fille d'une famille vraiment américaine moyenne, avec un père qui a un assez bon poste justement dans le pétrole. Et la mère est institutrice et après elle s'occupera de la famille.
Je nais de l'union mirifique de Seth Ward Joplin, ingénieur mécanicien pour la Texaco Company, et de Dorothy Bonita East, archiviste universitaire puis administratrice de collège, une putain de grenouille de bénitier qui cherchait des nénuphars au pied du Christ.
Elle est dans un milieu un petit peu catho, difficile d'y échapper quand on est au Texas.
Je nais dans les eaux salées du lac Sabine et je dégage en Louisiane quand je veux. Ma mère n'a rien à dire, ma mère ferait mieux de continuer à cirer les bottes invisibles du Christ invisible et tant pis si les pieds nous merdent. Je nais le sang plein de blues, l'infirmière dit, c'est incurable.
Elle n'a pas vocation à devenir chanteuse, a priori. Donc oui, elle chante des gospels parce qu'elle est dans la chorale et voilà, elle est dans le feu de l'action. C'est pas là qu'elle a vraiment la révélation. La révélation, elle l'a un petit peu plus tard avec les disques qui traînent à la maison.
À la maison, Jean-Yves Rezeau, il y a Bach et Beethoven quand même dans les disques de ses parents. Pablo Casals et sa mère Dorothy se fait opérer de la gorge. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence directe par rapport au piano familial ?
Les parents décident de vendre le piano juste au moment où Janice s'intéresse de plus en plus à la musique. Donc c'est pour ça qu'elle va se concentrer sur les disques qu'elle écoute. Elle va faire un travail très solitaire et très assidu sur les disques à chanter par-dessus la voix.
Sit by my window, babe.
Elle est fascinée par la voix des chanteuses noires et elle va prendre l'habitude quand elle est seule de chanter par-dessus les disques. C'est-à-dire qu'elle va même couvrir la voix des chanteuses, c'est pour ça que ça va l'habituer un peu à avoir une voix assez puissante et assez forte.
Sébastien Danchin, vous êtes spécialiste des musiques noires aux États-Unis. Janis Joplin, elle ne fait pas du piano puisque sa mère, elle s'est cassée la voix, elle a vendu le piano familial, mais elle chante sur la radio. Et sur la radio, il y a des voix noires. Et une des premières voix noires qu'elle peut avoir écoutées ou qu'elle a écoutées, c'est Big Mama Thornton, portrait de cette fille de pasteur et de chanteuse d'église.
Big Mama, c'est un personnage à part, et on peut comprendre pourquoi Janis Joplin a été aussi séduite, parce que c'était une femme dans un univers qui est celui du blues, qui en réalité est très attachée aux hommes. Et c'est une femme qui revendiquait sa féminité, qui était ouvertement à voiler à vapeur. Et je pense que ça, c'était... Il y avait une évidence, je crois, entre les deux. C'était deux générations, deux mondes bien séparés. Parce que c'est vrai que le monde noir, dans les années 50, 60, et le monde blanc, c'est des univers très séparés. Et ce qui est intéressant par rapport à la radio, c'est que la radio a été le passeur de tous ces métissages possibles. L'Amérique était très séparée en deux mondes bien distincts, et la radio, elle a aboli ces frontières-là. Ce qui est intéressant aussi chez Janis Joplin et le blues, c'est qu'on trouve chez elle une caractéristique qu'on retrouve chez tous les gens qui se sont intéressés au blues venus de l'univers blanc aux États-Unis, qui se sont passionnés pour le blues à ce moment-là, se sont reconnus dans cet isolement. Et dans le cas de Big Mama Thornton, je crois que la filiation est évidente.
Some grabbed a hold of me, daddy. Felt to me, honey, love. Oh, like a bullet.
Je nais sans me retourner. Ai-je tort?
This song is called Rosa Parks Boulevard.
Get up. Why you all push us around?
Montgomery, 1er décembre 1955, une femme noire refuse de céder sa place dans un autobus à un passager blanc.
There's probably no segregation law angered black people in Montgomery more than bus segregation. The indignity of having to ride segregated buses was very
Jean-Yves Rezeau, le milieu dans lequel elle vit, donc d'abord une ville du sud du Texas conservatrice où les rednecks, des travailleurs blancs font un petit peu la loi, une loi conservatrice. Elle écoute des musiques noires. 1955, 1er décembre, Rosa Parks décide de ne pas céder son siège dans une ville de l'Alabama. Et ça marque aussi la jeune Janis Joplin qui, on va dire, épouse aussi la cause des Noirs et de leur lutte pour des droits civiques.
Oui, politiquement, elle sera toujours ce qu'on peut appeler en Europe de gauche. Et donc, elle défendra toujours toutes sortes de libertés, et à commencer par celle des Noirs, parce que c'est vraiment une époque charnière aux États-Unis pour la défense du droit des Noirs. Et elle sera très marquée, comme beaucoup à l'époque, par cet épisode-là, qui sera l'élément déterminant pour la libération des Noirs. À partir de cet événement-là, les Noirs vont n'avoir de cesse de s'affirmer dans la société américaine.
Since my baby left me, I've found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel, where you will be.
1955, Rosa Parks. 1957, sur les ondes, un jeune homme issu de Tupelo fait entendre aussi sa voix influencée par la musique noire. C'est Elvis Presley qui chante Heartbreak Hotel. 57, c'est aussi la parution de Sur la route de Kerouac, La Beat Generation. Un an avant, il y a Allen Ginsberg qui donne à entendre son poème Hole. Et l'année suivante, Le Festin nu de Burroughs, 1958.
Last of trumpets. Man is carried in naked by two Negro bearers. Drop him on the platform.
Tout ce background littéraire de valeur, comment est-ce que Janis Joplin s'en empare?
Elle s'en empare, là c'est vraiment toute une génération qui s'en empare. Tous ceux qui ont un esprit un petit peu libre et ouvert vont être fascinés par cette révolution dans la littérature américaine. Et elle, alors là, exactement au même niveau que Morrison, ça va les marquer profondément. Et ça se retrouvera dans leur façon de se comporter dans la société, plus encore que dans leur chant, mais c'est lié tout ça.
Le 27 juillet 1962. Extrait du journal du campus The Summer Texan. Elle ose être différente. Elle se promène pieds nus quand elle en a envie, porte des Levi's parce qu'elle se sent confortable en jean. Son nom, Janis Joplin. Son allure fait qu'on peut dire qu'elle est une beatnik.
Elle dit : je ne suis pas une hippie. Les hippies croient que le monde pourrait être meilleur. Les beatniks, eux, croient qu'il ne va pas s'arranger et l'envoient au diable en se contentant d'être défoncé et prendre du bon temps. Alors, hippie ou beatnik, Janis Joplin ?
Bah là, c'est franchement une beatnik, hein, si on doit choisir entre les deux. Bon, elle, c'est une Texane, donc elle va aller d'abord sur la côte ouest et à San Francisco. Ça va très très mal se passer parce que elle a failli en mourir, elle a failli être internée quand elle a découvert des drogues. Ça s'est très très mal passé.
14 octobre 1965.
Lettre de Janis à sa sœur Laura.
Je suis retournée à l'école. J'ai tenu un semestre et je suis repartie à Austin pour rejoindre l'université parce que j'avais rencontré des chanteurs folk du coin. Mais tout ce que j'ai fait, c'est d'être saoule tout le temps, de baiser, de chanter et de me faire une réputation sur le campus.
Finalement, elle va revenir au Texas, elle va même essayer de se marier, elle va essayer de se ranger parce qu'elle a eu très peur.
Puis j'ai décidé que le Texas, c'était pas assez bien pour moi. Donc je suis repartie en Californie. J'étais contente de ma façon de chanter et les gens me regardaient comme si j'allais devenir quelqu'un de connu. Mais après quelques mois sur place, j'étais à nouveau saoule, du matin au soir.
Évidemment, elle va reprendre très vite sa passion et sa quête d'absolu. Elle va découvrir les hippies.
Et quand elle chante, on entend la vibrante voix d'une alto. Comme elle n'a jamais pris de cours de musique, elle ne sait pas lire le solfège. Sa voix n'a jamais été travaillée.
Alors le disque s'appelle Les filles du Texas, en anglais Daughters of Texas.
Le jazzman Jacques Mailloux.
Par un monsieur qui s'appelle Roy C. Ames, qui était un producteur local, qui fait une compilation de toutes les chanteuses qu'il a produites, et dont la seule qui soit devenue vraiment célèbre, c'est Janis. D'ailleurs, sur la pochette, il y a les photos de toutes les chanteuses. C'est quand même elle qui est la plus grande et qui est placée au centre.
Alors, description de cette photo de Janis Joplin, elle a 19 ans.
gras. Elle a les cheveux gras, on voit qu'elle a de l'acné d'ailleurs. Il y a à la fois une expression de défi et des... Enfin, ça respire pas la joie de vivre, quoi. Je crois que son arme de séduction principale, c'est sa voix. Et ça, déjà à l'époque, tous les gens qui l'entendaient étaient quand même assez étonnés d'entendre une gamine de 19 ans reprendre une chanson qui avait été illustrée par Bessie Smith, qui s'appelle « Nobody knows you when you're down and out ». Plus personne ne vous connaît quand vous êtes dans la merde. C'est vrai que la version qu'elle en donne, ça date de décembre 62, c'est ça, à 19 ans. C'est terrassant, quoi, c'est assez étonnant. Elle en avance sur son âge, quoi, à ce niveau-là.
Je crois que ce qu'elle admire chez Bessie Smith, c'est le pathos sans la facilité. On a des choses à dire, et alors là, on retrouve vraiment cet esprit du blues. L'esprit du blues, c'est, contrairement à ce qu'on croit, le blues n'est pas une musique triste, mais qui est une musique qui est faite pour exorciser la tristesse. C'est une catharsis.
Autre figure masculine musicale qui peut avoir influencé Janis Joplin, Led Belly.
Led Belly, c'est un personnage tout à fait fondamental parce que, avant l'heure, c'est un magnétophone. Il joue beaucoup de la guitare et une forme de guitare un peu particulière qui est la guitare à 12 cordes, qui est une guitare qui est plus sonore, qui permet de se faire entendre dans des clubs où les gens s'engueulent, se battent, rient et jouent aux cartes de manière assez bruyante et sonore. Elle a toujours dit qu'elle était une solitaire en classe, qu'elle faisait les choses différemment, elle s'habillait pas comme les autres, elle, c'était pas la jeunesse rock'n'roll, justement, elle se reconnaissait pas là-dedans. Et surtout, ce qu'on lui reprochait beaucoup, c'est d'être un nigger lover, c'est-à-dire quelqu'un qui aimait bien les nègres. Elle a grandi dans une société qui était encore complètement inféodée au système de la ségrégation, et c'est quelque chose, non seulement elle n'adhérait pas, mais qu'elle réprouvait totalement. Et elle se reconnaissait pas dans ce système. Et là, on voit qu'il y a des gens qui sont relativement d'avant-garde là-dedans parce qu'ils osent remettre en cause les codes de leur société et de leurs copains de classe en réalité. C'est bien pour ça qu'ils ont du mal à trouver des copains et des copines de classe et qu'après ils vont se chercher ailleurs, y compris dans d'autres paradis, pour beaucoup artificiels d'ailleurs.
Up on the desk then, eh?
Send him in.
Je nais dans une bouteille de Southern Comfort et je vous emmerde à la vôtre.
Oh bah, c'est une sorte de bourbon un peu frelaté, avec des épices. Bon, c'est pas très bon. Hein.
Je nais dans une seringue fluide. Je nais pour que Jack Smith et Tim Berryman me trouvent jolie. Cette naissance-là ne marche pas comme je voudrais, mais ça reste de bons amis, Tim et Jack. Je nais pour que Grant Lyons, Dave Moriarty et Jim Langdon me trouvent jolie.
Décembre 1965. Critique musicale de Austin American Statesman, signé Jim Langdon.
This is a song by Buffy St. Marie called Codeine that I've added my own lyrics to. Codeine.
Elle s'appelle Janis Joplin. Avant, elle habitait à Austin. Elle est née à Port Arthur. Puis elle s'est enfuie à Austin. Puis de Austin, elle est encore partie à San Francisco. Puis à New York. Puis elle est revenue. Elle est rentrée chez elle. Et personne ne connaît encore ses talents de chanteuse.
Alors Janis Joplin, elle chante pas parfaitement, elle chante pas super juste. Des fois, elle a une mise en place un petit peu brinque-ballante, comme ça.
Le musicien Franck Tortillet, créateur du spectacle Janis the Pearl.
Et en fait, on peut dire la même chose de Maria Callas, par exemple. C'est quand même deux grandes héroïnes de la musique. Maria Callas, effectivement, elle est pas parfaite. Elle chante pas super juste non plus. Elle fait pas l'unanimité avec tout le monde. Et Joplin, pour moi, c'est la même chose. Mais, malgré tout, avec ses imperfections, ça reste pour moi les deux grandes incarnations féminines de ce que peuvent être la voix et cette position d'héroïne moderne.
Time keeps moving on. Friends, they turn away. I'll keep moving on, but I never found out a way. I keep looking to hold a babe, I keep trying to make it right to another.
Alcresson, vous avez incarné Janis dans la pièce de Fabrice Melchior, The Pearl. La voix de Joplin, c'est plutôt du côté du chant ou plutôt du côté du cri ?
C'est un chant qui se permet d'être un cri, mais c'est pas qu'un cri. C'est ça qui est beau avec elle, c'est que ça n'est pas qu'un cri. C'est pas comme si elle nous déversait une souffrance, parce que ça, c'est pas très intéressant. Elle y met une poésie, une beauté, elle y met une mélodie, elle nous raconte à chaque fois une histoire.
Je n'ai moche, je n'ai belle, je n'ai baisable. Je n'ai pour affirmer que n'importe quelle fille est aimable. Je suis n'importe quelle fille, alors ne vous gênez pas les mecs. Aimez-moi, tirez-moi et puis tirez-vous.
Dans son parcours, peut-être un élément fondateur, c'est lorsqu'elle a été élue le mec le plus moche de sa fac quand même. Ça c'est quand même super violent. Hein.
Je n'ai vaincu et déglingué. Je n'ai pour prendre du poids et me plaindre de mon acné. Je n'ai avec un cul banal. Je n'ai avec une paire de seins minables.
Elle est revenue, je crois, 2-3 ans après. Elle a tenu à faire un concert dans cette même fac en disant « Hé, alors, qui c'est qui est la meilleure ? » Quand même, il y a ce truc-là aussi. Alors, c'est à la fois magnifique et c'est à la fois pathétique.
J'ai aimé voir son trajet, c'est-à-dire comment elle passe d'un endroit à l'autre, comment elle traverse tout un continent pour aller à la quête d'elle-même. Puis j'ai aimé son côté destructeur, le côté jusqu'au boutiste, la sensation qu'il va arriver quelque chose tout au long de sa traversée. Elle a l'impression qu'il pourrait lui arriver quelque chose, mais elle dit rien, rien. Elle est vraiment seule contre tous. Elle chante dans des endroits mal famés. Elle doit se faire à la force de la voix. Tout ce qui est énergie chez Janis Joplin, quand on la voit sur scène et tout ce qui est énergie qu'elle met en place dans sa vie, ça a visiblement un lien avec sa sexualité. C'est-à-dire qu'elle n'a de cesse de séduire et de séduire et de séduire le plus grand nombre de personnes possible. C'est extrêmement touchant, je trouve. On dirait qu'elle est insatiable, qu'elle est boulimique, qu'elle n'en aura jamais assez.
Puis est venue ma période lesbienne. D'abord avec Jae, puis Linda Poole. Je suis allée à New York, où je traînais dans le milieu gay. Et je prenais du Dexymil tout le temps. Je me suis échappée de cette atmosphère étouffante. Je suis repartie à San Francisco, avec comme idée de me trouver un vieux Jules et d'être heureuse. Mais je suis retombée sur Linda. Et je suis devenue addict à la méthédrine.
Regard sur ses amours pluriels, avec des hommes qui la déçoivent, elle le dit dans beaucoup de chansons, mais aussi avec notamment Peggy Caserta, qui est aussi l'amante de Kim Chappell, elle-même l'ancienne maîtresse de John Baez. Donc ça fait beaucoup de femmes et beaucoup de chanteuses qui l'invitent autour d'elle.
Bah, ça aussi, c'est l'époque, hein, c'est la libération sexuelle. En fait, elle préfère a priori les hommes, mais elle sera totalement bisexuelle et elle va toujours mélanger les conquêtes féminines et masculines. À la limite, c'est ces relations féminines qui seront les plus durables et les plus fortes dans un sens, mais elle sera toujours quand même davantage en quête d'aventure masculine. On the cuckoo, she's a pretty bird, and she warbles when she flies, but she never hollers cuckoo to the fourth day of July.
13 août 1966.
Chère famille, beaucoup de mes amis ont des boutiques de vêtements ou conçoivent leurs propres costumes. D'autres agencent des perles et les vendent. D'autres, c'est plutôt le cuir. Mais la plupart sont dans le rock'n'roll. C'est vraiment fantastique. C'est un phénomène social. Sur scène, je porte un chemisier brillant, noir et or, avec une jupe noire et des grandes bottes ou alors un Levi's noir et une paire de sandales. Les filles portent toutes des pantalons pattes d'éléphant et des bottes, donc moi, je veux me trouver quelque chose en lamé or. Très simple, mais très look showbiz. PS, je vous écrirai une longue lettre enthousiaste dès que je me sentirai plus coupable. Transmettez mes sentiments à Mike et à Laura. Je vais écrire aussi à Laura pour lui parler de comment on danse ici, c'est fantastique. Et aussi de vêtements, des gens. Je le ferai dès que possible. Je vous aime. Je suis désolée.
Elle essaie de les rassurer, ses parents. C'est pour ça qu'elle écrit notamment ses lettres. Hein. C'est pour le dire, bon bah oui, c'est spécial ce qui se passe ici, mais vous en faites pas, tout se passe bien pour moi. Donc elle est toujours en train de les rassurer. Et dès qu'elle va commencer à faire de la scène à San Francisco, elle va sentir qu'une carrière est possible, elle va vraiment croire en son étoile. Et très vite, elle sera persuadée de devenir une chanteuse importante, même avant que le premier disque soit enregistré. Elle a une grande foi en elle en tant qu'artiste, ça c'est très très clair.
Elle est heureuse que sur scène, elle se défonce tout le temps, elle boit, elle s'abîme dans l'alcool avec des copains, elle a le goût du risque, elle a le goût du danger, elle a jamais peur de rien. Toujours retombée sur ses pattes, toujours le sens du rythme, toujours une grosse capacité d'improvisation, vraiment une liberté folle. Je trouve que dans sa voix, il y avait la puissance de la liberté.
Clive Roseau, la rencontre avec Big Brother and the Holding Company, donc groupe hippie. Il y a un album qui sort en 66 avec trois chansons qui résument un petit peu sa vie. Le premier titre de Janis Joplin, c'est Woman is Losers, qui est inspiré de World is Funky, du chanteur noir Robert Shaw. Le deuxième titre, c'est Down on Me, qui est clairement une allusion sexuelle à ses amours féminines. Et le dernier de Moondog, donc de son vrai nom Louis Hardin, All is Loneliness. Donc on a la loose, les femmes et la solitude. Dans ce premier album, c'est déjà un concentré de sa vie. On est en 66.
Pour le coup, c'est des paroles assez féminines. Là. Elle dit que les femmes sont toujours les perdantes. Et ça, elle aura toujours ce discours un petit peu féministe en elle. Et puis après, oui, il y a toujours ce sentiment de solitude, d'être seul au monde.
Ce qui est aussi assez remarquable, c'est qu'elle a écrit peu de choses, finalement. C'est une des rares chanteuses, icônes de la pop culture, qui n'a fait pratiquement que interpréter des choses. Quand on dit Janis Joplin, tout d'un coup, on entend elle, on entend son univers, puis finalement, on oublie que les chansons qu'elle chante, c'est pas elle. Et là, ça, c'est vraiment proche d'un univers de musicien de jazz.
Un mot quand même sur ce groupe, c'est ni Dwight Foddell ni Jefferson Airplane. Est-ce qu'ils ont un petit renom ?
Ah, c'est pas un très bon groupe. C'est surtout un groupe de scène. C'est un groupe qui a du feeling, qui a de la présence sur scène. Par contre, dès qu'ils sont en studio, c'est beaucoup plus difficile parce que ce sont pas de grands instrumentistes. Donc en fait, quand elle sera approchée par les maisons de disques vont essayer de se débarrasser de ce groupe.
Big Brother et Janis Joplin, un de leurs moments phares, c'est 67, c'est le Monterey Festival. Et Monterey Festival, il y a Mamas and Papas, les Animals, les Who, les Simon & Garfunkel. Et là,
Love is like a ball and chain.
La notoriété de Janis Joplin commence à éclater, notamment avec un titre Ball and Chain, une reprise qui marque le public.
Bah là c'est vraiment le moment où elle devient Janis Joplin chanteuse. Quoi. C'est là, il y a une mutation.
Été 1967. Chère mère, N'oublie pas de regarder la retransmission du Festival de Montreux sur ABC. On sera dedans. J'arrive pas à trouver ce que je peux en dire. À part que ce groupe, c'est toute ma vie désormais. C'est aussi vrai pour les autres membres. Moi, j'y suis engagée, mais totalement, et je m'accroche. Avant, je pensais qu'à traîner ici ou là, me mettre minable et passer du bon temps, tout ça, c'est secondaire désormais. Chanter me donne énormément de satisfaction. Et la reconnaissance aussi m'en procure, je dois l'admettre. Vous savez, c'est drôle. Le fait de devenir une star, c'est pour bientôt. C'est probable que ça m'arrive, mais ça perd aussi sa signification. En tout cas, je suis prête. Don Alan Penbaker filme le festival de Montreux en Californie du 16 au 18 juin 1967. Il raconte... J'étais en train de la filmer et elle portait un vêtement transparent et je pouvais voir ses seins. Durs, tendus, les pointes dressées. J'ai compris que, pendant qu'elle chantait, elle avait atteint une véritable extase physique. Je sais plus si cette image est dans le film, mais elle donne parfaitement l'idée de ce qu'elle était. Quelqu'un qui, concrètement, faisait l'amour avec son public.
Il se passe quelque chose d'incroyable dans ce week-end-là, au niveau de la musique. Et c'est un festival qui est avant Woodstock, qui est beaucoup plus important que Woodstock. Et c'est là où vont éclater Jimi Hendrix, mais il y a aussi Otis Redding. En plus, il y a tous les genres musicaux qui sont réunis à ce festival et qui est le festival le plus important et le plus intéressant au niveau politique, social. Enfin, c'est vraiment une date essentielle dans l'histoire de la musique américaine et électrifiée.
2 mars 1968, critique musicale du journaliste Mike Jan. Janis est superbe. Dans un secteur où la popularité s'accompagne souvent d'un côté snob, elle offre une bouffée d'air frais. En apparence, on dirait une petite poupée sexy, presque un pantin qui rebondit joyeusement autour du micro, alors que dans le même temps, elle vrille les tympans de sa voix intense. Elle n'aime pas les soutiens-gorges et préfère les chemisiers légers, ce qui ajoute une certaine séduction à sa voix rock. Elle va devenir, ce genre de distinction est inévitable, la première sexe symbole féminine du rock. Pour beaucoup, elle l'est déjà. Elle dit « Je conseille à ceux qui chantent de boire du Southern Comfort, car cela préserve la voix. Mais c'est juste une excuse à mon alcoolisme. »
Je nais pour me casser une dent de temps en temps sur mon génie. Le génie, c'est la blessure la plus profonde. Je nais pour en faire des tonnes et attirer l'attention. Je nais pour vous dire que vous n'en ferez jamais assez des tonnes. Vous êtes léger, ça vous tuera, soyez grave, putain. J'ai pas dit sérieux, j'ai dit grave.
Jacques Maillot, vous avez lu les lettres qu'elle a écrites à sa famille, et notamment à Laura Joplin, qui les a publiées plus tard sous le titre « Love, Janis ». Quel est le portrait de Janis qui émerge de ces lettres ?
C'est un portrait beaucoup plus nuancé que l'image qu'on peut en avoir quand on lit la presse rock de l'époque. C'est un peu plus subtil que « Sex, Drugs and Rock'n'Roll ». Il y a des moments, elle a des côtés complètement bidinettes.
Chère mère, je suis au Chelsea Hotel. Sur la 23e rue à New York. C'est une référence dans le milieu intellectuel. Dylan Thomas y a vécu et y est mort. Brendan Behan aussi.
Franck Tortillet, parmi les conquêtes, les liaisons, les amours, les rencontres de Janis Joplin, il y a Leonard Cohen qui, dans Chelsea Hotel, révèle son idylle d'un soir avec Janis Joplin, avec ces termes « I remember you well in the Chelsea Hotel ».
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street.
Voilà, quand je dis il y a les limousines qui attendent en bas, t'as voulu du succès, t'en as. Ah, c'est un truc pas super gentil, hein, vraiment. Même un poil misogyne quand même, et quand même brutal. Mais c'est aussi le paradoxe de cette époque. C'est assez fascinant, les années 70 aux États-Unis. C'est un peu comme nos années 20 à Montparnasse. Mais il y a une certaine brutalité, en fait, dans les rapports entre les gens. Bon, avec la drogue, avec tout cet univers.
Je n'ai un boa rose autour du cou. Il a une très longue langue rose boa et il me pique sans pitié.
Six mois plus tard, après Montreux, on arrive en 68 et la presse est dithyrambique. Je cite Times de New York, une étoile est née. Rolling Stone, la voix féminine de sa génération. Newsweek, un peu plus tard, Janis Joplin, The Rebirth of the Blues. Et Time, la chanteuse la plus puissante qui émergeait du rock blanc. Tout d'un coup, en six mois, la vie de Janis Joplin a basculé. Est-ce que on peut parler de renaissance en 1968 pour Janis Joplin?
Alors, je ne sais pas si c'est une renaissance, c'est une naissance. Hein. Parce que là, le succès, il va être immédiat. Même si le groupe n'est pas très bon en studio, le disque va se vendre immédiatement à 1 million d'exemplaires. Elle va devenir célèbre du jour au lendemain. Il y a déjà eu le festival avant de Montreux, mais tout d'un coup, là, le succès, il se mesure après en quantité de disques vendus. Et là, ça va être énorme. Tous les Américains qui suivent un peu l'actualité musicale vont connaître Janis Joplin du jour au lendemain. Et là, elle va vraiment rentrer dans la peau de la chanteuse. Et là, elle va avoir conscience de ses capacités. Elle ne va jamais douter d'elle en tant que chanteuse, en tout cas, c'est sûr.
J'ai voulu venir à ce festival depuis que j'étais 17 ans et je n'ai jamais eu de bread. Vous savez, c'est la vérité, man.
28 septembre 1968. Chère famille, on a joué des concerts de plus en plus importants. Dernièrement, c'était devant 20 000 personnes à Newport. C'était le meilleur. On a aussi joué au Hollywood Bowl, au Rose Bowl. C'est là que s'est passé le truc le plus dingue. On passait en dernier dans un festival pop, après de grosses pointures. La scène était au milieu d'un terrain de football, mais les policiers voulaient pas que les jeunes s'approchent de la pelouse. Ils avaient leurs instructions. Au moment de notre rappel, j'ai demandé qu'on laisse le public danser près de nous, mais c'était non. Et puis j'ai chanté Down on Me, en regardant cette foule, et d'un coup, tous ces jeunes ont envahi la pelouse, ils se sont approchés de la scène et voulaient essayer de me toucher. Je suis descendue pour serrer des mains tendues, puis j'ai repris les escaliers. Mais il y avait des gens partout, des milliers qui voulaient me toucher. Ils essayaient de m'enlever mes vêtements, mes perles. Ils me disaient « Janis, on t'aime !» J'étais complètement encerclée. Je peux pas dire que j'ai pas apprécié. J'ai adoré.
Septembre 68, l'album Cheap Thrills, qui devait s'appeler Sex, Dope and Cheap Thrills, donc la censure américaine a raboté les trois quarts du titre, donc Cheap Thrills, les frissons au rabais. Alors, un mot quand même sur la fabrication technique de ce disque, c'est un espèce de Rifo Live avec des morceaux de concert, des prises de studio sur lesquelles on a plaqué du public.
Oui, ça c'est du bidouillage. Ouais, en plus, c'était l'époque où c'était un peu l'explosion aussi de l'industrie du disque aux États-Unis. Donc là, les maisons de disques deviennent tout d'un coup très puissantes, très influentes. Donc elles sont prêtes à tout pour faire des produits souvent enregistrés trop vite, commercialisés trop vite. Il faut être les premiers sur le marché et donc on est prêt à toutes sortes de compromis.
Alors pas de compromis par contre pour la couverture qui est signée Robert Crumb. Qui est Robert Crumb ?
Alors Robert Crumb, c'est un dessinateur extrêmement important. C'est lui qui a notamment dessiné Félix le Chat. Et il a été parmi les artistes qui faisaient les affiches de concerts à l'époque. Non seulement il y a une explosion littéraire, musicale, mais aussi graphique. Hein. Donc les affiches de l'époque sont restées très spéciales, enfin, très marquées dans le temps, mais dans le bon sens.
Cheap Thrills a noté dans cet album un autoportrait, Turtle Blues. Je cite, « Je suis une femme mauvaise et aucun homme ne trouve grâce à mes yeux. Je suis comme une tortue qui se cache sous sa rugueuse carapace. » Turtle Blues.
C'est une belle définition d'elle, ça. Hein. C'est quelqu'un qui, à la fois, se protège et à la fois n'a pas de défense. Elle va prendre tous les risques au niveau drogue, avec ses amants, ses maîtresses. Elle va vivre dangereusement.
Summertime, qui la suit depuis le départ, cette air de Gershwin, qu'elle l'enregistre. Un mot sur cette version de Summertime par Janis Joplin.
Attends, Summertime, c'est une chanson, c'est une berceuse, oui, bah, c'est tiré d'un opéra de Gershwin pour Guillain-Bess, qui a été son époque révolutionnaire puisque tous les personnages étaient noirs. 1933, c'était quand même, c'était pas gagné d'avance.
C'est la berceuse d'une femme noire dans le sud des États-Unis qui endort.
Elle endort un petit blanc parce que la parole dit pleure pas, t'as pas de raison de pleurer. Ton papa est riche, ta maman est belle. Alors tais-toi et dors. En gros, c'est ça que ça raconte. Ouais.
À partir de son Texas natal, Janis Joplin, elle a fait la manche, elle a fait du stop. Mais après 68, elle a l'argent de se payer une voiture. Laquelle ?
Elle avait la voiture de James Dean. Une Porsche, c'est un symbole d'indépendance dans l'imaginaire américain parce qu'on va chercher le modèle ailleurs. C'est un symbole, évidemment, de vitesse. C'est pas un hasard si quelqu'un comme James Dean se tue au volant d'une Porsche. Alors, là où elle est différente, sa Porsche à elle, c'est qu'elle est complètement flower power, elle est complètement réhabillée en couleur avec ce côté psychédélique qu'on connaît et qui est associé à toute l'époque du Summer of Love, etc.
Papa, j'espère que tu recevras cette lettre et que tu accepteras le fait que je suis plus une junkie. Ce qui m'arrive est fantastique. Ça fait mal, mais je peux plus fermer les yeux et me rendormir.
It's a song by Snooki called Me. And I want to see you people move. Let's go.
13 avril 1969, l'Olympia, Janis Joplin en concert, dans une salle à moitié vide. Sauf que vous, Christian Rose, photographe, vous êtes dans cette salle et vous faites des photos d'elle. Description.
Et si je me souviens bien, c'était un dimanche après-midi. Moi, j'étais vraiment surpris de trouver cette salle à moitié vide parce que Janis Joplin, la première fois qu'elle vient, à cette époque, il y avait quand même tout le côté, la musique anglaise, donc les Beatles et tout ça, et de l'autre côté, les Américains. Ça, en plus, les Américains, c'est San Francisco. Il y avait beaucoup moins de monde qui aimait ce genre de musique que la pop anglaise ou le rock anglais. Donc voilà, donc en fin de compte, j'étais très heureux d'y être. J'étais aussi un peu parti dans un genre de trip un peu hippie, mais enfin pas trop. Donc quand j'ai su qu'elle venait, je me suis dit, il ne faut pas que je la rate. Et je ne l'ai pas raté, voilà. C'était formidable de la voir comme ça, en live. Moi, ce qui m'a surtout impressionné lorsque je l'ai vue sur scène, c'est son énergie. C'était extraordinaire parce que on avait vraiment l'impression que c'est elle qui supportait tout le groupe. Et puis c'était une vraie pile électrique. Hein. Elle bougeait sans arrêt. Et puis cette voix, c'est surtout ça. Oh, ben alors c'est carrément l'arc-en-ciel, hein, parce que ça partait dans tous les sens, je veux dire, c'était formidable. Je pense que sur quelques-unes de mes photos, on peut retrouver cette énergie, parce que quand on l'a connue, c'était des grands cheveux très longs, puis ensuite après, avec sa coiffure de plume qu'on connaît bien.
Peut-être une autre photo que vous pourriez décrire.
Ok, c'est un son called Try.
Alors, elle est habillée là, en fait, tout en noir, avec un pantalon ample, mais surtout, elle a cette espèce de petit gilet en doré, tricoté, et ça, c'est d'après ce que j'ai vu, c'était sa tenue de scène pour cette tournée en Europe, parce que j'ai vu des images sur un concert en Allemagne, et elle était habillée pareil.
'67 montrait Triomphe, deux ans après avec le Cosmic Blues, Échec. Qu'est-ce qui se passe en deux ans? Est-ce que les choix des musiciens, les anecdotes disent qu'elle est ivre, qu'elle est défoncée sur scène, qu'elle est bouffie? Est-ce que c'est déjà la fin alors qu'elle est déjà au sommet? Qu'est-ce qui se passe entre Montré et Woodstock?
Montré, c'est l'explosion. Là, elle devient elle-même. C'est carrément la chrysalide qui devient papillon. D'ailleurs, elle est extrêmement belle à Montré. De corps, de visage, elle est belle parce que là, elle est transportée par la musique. On sent qu'elle joue sa vie. À Montré, quand elle est filmée, là, il y a une clarté, une explosion, une lumière, tandis qu'à Woodstock, c'est très sombre. Et là, il y a déjà les ravages de la drogue, de l'alcool qui sont marqués. Elle joue avec des musiciens qui ne sont plus ses amis. Donc c'est aussi très, très différent. C'est ce qu'il a porté au début, et notamment sur scène. Il se passait quelque chose avec Big Brother parce que c'était une famille. Tandis qu'à Woodstock, bon, déjà, elle sera dans un état pas terrible. Et donc, quand elle monte sur scène, c'est assez pitoyable parce qu'en fait, elle voulait pas. On la pousse carrément sur scène à Woodstock. Et bon, là, effectivement, les images sont pas très flatteuses.
Elle meurt seule de nombreuses fois, espérant à chaque résurrection que quelqu'un sera là pour l'empêcher de mourir encore. Mais il n'y a personne. Seth Morgan n'est pas là. Sa mère non plus. Son père, sa sœur, Linda, personne. Le petit chien George, son toutou de toujours, George non plus ne la regarde pas mourir et renaître plusieurs fois, pleine de l'espoir qu'il y aura quelqu'un. Il devrait toujours y avoir quelqu'un.
Jean-Yves Rozeau, adieu Big Brother, adieu Cosmic Blues, voici le Full Tilt Boogie Band avec comme objectif fin 1970 Pearl, l'album que ne verra pas Janis Joplin.
Et là, le casting est meilleur au niveau des musiciens, c'est des gens qu'elle connaît un peu plus. Surtout, elle travaille avec Paul Rothschild, qui est un très très grand producteur. C'est le producteur des Doors. Et c'est quelqu'un qui va très bien comprendre Janis. Janis va s'entendre merveilleusement bien avec lui. Tout est réuni là pour que le disque soit réussi et ce sera de loin son meilleur enregistrement.
Des détails de ce dit titre Pearl, un premier mouvement Move Over signé par Joplin où elle compare un peu crûment comment on fait avancer une mule en lui promettant une carotte et comment un homme peut tromper sa femme, comment on peut l'avoir finalement.
Dans sa naïveté, il va dire « Oui, j'ai toujours couru après la carotte. » Comme souvent dans les rares chansons qu'elle a écrites, ce sont des paroles très autobiographiques. Mais assez cruelles pour elle quand même, mais assez lucides.
Left Lonely, donc encore quelque chose d'autobiographique sur sa solitude. Cry Baby, qui est aussi un slow, un blues, qui parle de sa solitude. Un homme l'a quitté. Half Buried in the Blues, qui est resté un instrumental puisque elle meurt avant d'enregistrer les paroles.
Oui. Oui, elle n'est plus là. Le disque est quasiment fini, mais ils ont déjà commencé à travailler sur la musique, mais pas la voix. Donc les musiciens ont décidé de garder ce morceau, quoi. Mais justement, qui est très émouvant parce qu'elle est absente. Hein.
Il y a un titre qui retient l'attention du public. C'est Me and Bobby McGee, écrit par Chris Christopherson. Texan comme Janis Joplin, qui lui-même va en faire une version où, au début, on l'entend murmurer « Si ça sonne country, mon gars, c'est que c'est une chanson country. »
Alors, Chris Christopherson, c'est un artiste énorme. C'est un des grands, grands compositeurs américains. Il a fait des albums solo formidables. Et il a eu une brève mais forte aventure avec Janis. Pourquoi elle était assez amoureuse de lui, je crois. Et donc lui, il a écrit cette chanson et de façon posthume, ça va devenir le grand succès en fait de Janis. Et c'est une chanson plutôt country. En fait, c'est une balade un peu country. Donc on est encore loin du blues, etc. Donc en fait, c'est un peu un retour de ses influences du début quand elle était sur scène.
Et cette chanson, Me and Bobby McGee, a été reprise par nombre et nombre d'interprètes. Bill Haley sur son album Rock Around the Country, Grateful Dead, Jerry Lee Lewis, Les Platters, John Baez, Johnny Cash, Nana Mouskouri, adapté en français en 72 pour les compagnons de la chanson et en 74 pour Johnny Hallyday.
Bon, tout simplement, c'est une grande chanson. Donc, c'est pas étonnant que beaucoup de gens aient voulu se l'approprier. Mais effectivement, on peut écouter toutes ces versions, la grande version, c'est celle de Janis, quoi, parce que là, elle s'investit énormément dans cette chanson, et puis là, c'est une des chansons où sa voix est la plus frappante, quoi.
Mercedes-Benz.
I like to do a song of great social and political import.
Signé Janis Joplin, chanté par Janis like Joplin, this. Qui s'accompagne du talon et gospel où elle interpelle Dieu en lui demandant une Porsche, une télé couleur et de l'argent pour faire la nuit.
Alors ça c'est une chanson qui est écrite sur un bout de table, sur un bout de papier. Ils sont deux ou trois à l'écrire. D'ailleurs, elle n'est pas tout à fait seule. Je crois qu'il y a Chris Christopherson qui est dans l'histoire. Mais les paroles, c'est de la blague. Mercedes-Benz. Oh Lord,
won't you buy me a color TV? Elle meurt le 4 octobre 1970 à Hollywood d'une dose d'héroïne extrêmement pure scintillant dans ses veines. I wait for delivery
each day until. Jean-Yves Rezeau, le décor.
Jenny, c'est à la fin de l'enregistrement de ce disque. Et au niveau amoureux, c'est pas terrible. Elle retourne à son hôtel.
La dernière personne à l'avoir vue vivante est le veilleur de nuit du Landmark Motor Hotel, un dénommé George Sandoz. Elle meurt seule. Oh Lord, won't you buy me
Là, alors qu'elle avait fait vraiment une tentative pour un peu moins boire et surtout moins se droguer, là, on ne sait pas exactement pourquoi, mais elle va recommencer, elle va se piquer, elle a bu et donc elle va en mourir seule dans sa chambre d'hôtel.
Elle meurt en chemisette. Elle se casse le nez en tombant sur le sol de sa chambre. Elle éclate de rire. Elle regrette. Elle se refait le film en 5 secondes. Non, elle ne regrette pas.
Elle a laissé un testament et un chèque de 2 500 $ avec cette mention « Drinks are on Pearl », donc les boissons c'est pour moi. Et le testament, c'est qu'elle lègue tout à ses parents, son frère et sa sœur, et ses objets personnels à la dernière personne féminine qui partage sa vie avant sa mort, Linda Herb. Est-ce que la fête où les gens vont boire à la santé de Janice aura lieu?
Oui, oui.
Elle pense à Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Dylan Thomas, Jimmy John Lennon. Elle meurt en chantant une dernière fois et elle y met tout son estomac gorgé de sirop pour adultes.
Ça, c'est vraiment touchant. C'est là où on voit le vrai personnage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'innocence. Et puis, il y a cette espèce d'appel pour dire « Hey, les amis, on est là, quoi. » Voilà.
Elle entend Bessie Smith et Led Belly. Du calme, petite, du calme. Elle entend la voix d'une petite fille. On dirait la voix de ses 9 ans quand elle était à Port-Arthur et qu'elle dessinait des rivières sans retour ou qu'elle ratait par plaisir ses autoportraits. La voix de la gamine tremble et résonne comme si elle était coincée au fond d'une caverne.
Jean-Yves Rezeau, Jimi Hendrix meurt le 18 septembre 1970. Janis Joplin meurt le 4 octobre 1970 et Jim Morrison meurt le 3 juillet 1971. On a le club des 3J qui sont morts à 27 ans.
Beaucoup d'artistes ont vécu extrêmement vite et se sont grillés aux drogues, à la célébrité, et à une vie démesurée. Donc c'était impossible de vivre au-delà de 30 ans pour ces gens-là, surtout quand ils avaient une personnalité qui était sans frein, comme étaient Morrison, elle et Jimi Hendrix.
Sébastien Donchin, est-ce que Janis Joplin, c'est une comète?
Janis Joplin, c'est une comète, oui, déjà dans le temps, parce que c'est une période extrêmement courte. Il faut imaginer que c'est une carrière qui dure pendant 4 ans. Vous connaissez beaucoup de chanteurs qui ont une carrière aussi courte et qui laissent autant un impact. Alors, c'est une comète, oui, parce qu'elle a traversé le firmament du rock physiquement de manière très fugace, mais en réalité, elle a une traînée de comète qui est extrêmement longue.
Jacques Mailleux, est-ce que Janis Joplin a des héritières?
Non. À mon avis, non.
Je nais sur la route, appelez-moi Pearl.
Une comète nommée Janis Joplin. Avec la comédienne Anne Cressant qui a incarné la chanteuse dans la pièce Pearl, écrite par Fabrice Melchior, le musicien Franck Tortillet qui a créé un spectacle intitulé Janis the Pearl avec le chanteur Jacques Mailleux, et aussi Jean-Yves Rezeau, biographe de Janis Joplin, Sébastien Danchin, spécialiste des musiques noires américaines, et enfin le photographe Christian Rose, qui était à l'Olympia en 1969. Les lettres de Janis à Laura Joplin étaient dites par Myriam Ajar. Une vie, une œuvre. Attaché de production Claire Poinsignon, prise de son Emmanuel Morse-Duncan, mixage Alain Joubert, réalisation Christine Diger avec la complicité de Grégory Pasquier, une émission proposée par Michel Pomared.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie, liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, nous serons avec celui qui affirmait que ceci n'est pas une pipe, René Magritte. Mais dans un instant, on retrouve Christophe Onodibio et le temps des écrivains.